Donald Kagan, La chute de l'Empire athénien, Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse, volume 4. Dans ce quatrième et dernier volume de sa Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse, Donald Kagan étudie la période allant de la destruction de l'expédition athénienne en Sicile en septembre 413 à la capitulation des Athéniens au printemps 404 avant Jésus-Christ. Comme dans les trois volumes précédents, Kagan prend comme fil conducteur une thèse de Thucydide sur la fin du conflit et les causes de la défaite d'Athènes, qu'il passe au crible et dont il propose une critique argumentée, érudite et passionnante. L'attaque athénienne contre la Sicile, qu'accompagnait tant d'espoir, s'était soldée par un échec total. Nicias avait remis les misérables restes de son armée aux Syracusains à la mi-septembre 413, si bien que la nouvelle de la défaite n'avait pas dû parvenir à Athènes avant la fin du mois. Une anecdote antique dit que la première annonce était venue d'un étranger qui était entré dans la boutique d'un barbier du Pirée. Supposant la catastrophe déjà connue des Athéniens, il s'était mis à en raconter les détails. Le barbier courut alors jusqu'à Athènes pour y répandre la nouvelle, mais personne ne voulut le croire. On pensa que c'était un affabulateur et un fauteur de troubles, et il fut mis à la torture jusqu'au retour de témoins qui confirmèrent son histoire. Il n'est pas nécessaire d'accorder du crédit à de tels récits, mais le tableau qu'il brosse d'une incrédulité générale est certainement juste. Thucydide nous dit que même lorsque les soldats qui avaient réussi à fuir la Sicile relatèrent l'étendue du désastre, on se refusa pendant longtemps à les croire. Quand il fut finalement impossible de nier la vérité, les Athéniens réagirent d'abord avec colère, puis avec peur. Ils s'en prirent d'abord aux hommes politiques qui avaient proposé et défendu l'expédition, et Thucydide à cette remarque amère, comme s'ils ne l'avaient pas eux-mêmes voté. Ils étaient furieux contre les devins qui avaient prédit le succès. Ensuite, ils pleurèrent les hommes morts en Sicile. Enfin, ils se mirent à craindre pour leur propre sécurité lorsqu'ils calculèrent leurs pertes et les gains de l'ennemi. Ils voyaient déjà les Péloponnésiens rejoints par leurs nouveaux alliés de Sicile, envoyer leur flotte directement contre le Pirée et attaquer Athènes par terre et par mer, aidés par les alliés d'Athènes qui allaient certainement se révolter à présent. Dans la panique du moment, ils s'exagéraient la capacité de l'ennemi à agir de manière efficace, mais ils avaient de bonnes raisons de s'inquiéter de la situation d'Athènes et de sa capacité à poursuivre la guerre. Le problème le plus évident était les effectifs humains. Au début de la guerre, les Athéniens disposaient de 13 000 citoyens hoplites en âge de combattre et de 16 000 autres pour les tâches de garnison, dont environ 8 000 étaient des citoyens trop jeunes ou trop vieux pour le champ de bataille et 8 000 des métèques. Il y avait en outre 1200 cavaliers et 1600 archers et 20 à 25 000 têtes pouvant servir comme rameurs et épibates, les soldats de marine. La peste semble avoir tué environ un tiers de la population et en avoir estropié et handicapé une autre partie. Ces pertes n'avaient pu être que partiellement compensées à l'époque du désastre de Sicile, qui avait probablement tué au moins 3000 hoplites et 9000 têtes ainsi que des milliers de métèques. Si l'on prend en compte les autres victimes tombées entre 431 et l'automne 413, on peut raisonnablement penser qu'en 413, les effectifs athéniens avaient été réduits à 9000 citoyens adultes mâles de tous âges appartenant à la classe hoplitique, 11000 têtes peut-être, et 3000 métèques. Une baisse stupéfiante du nombre d'hommes mobilisables pour les combats. Au même moment, l'économie d'Athènes était gravement touchée. Le fort spartiate de Décélie épuisait financièrement, physiquement et psychologiquement les Athéniens. Ils avaient perdu plus de 20 000 esclaves. Ils ne pouvaient plus exploiter leurs mines d'argent, ils ne pouvaient quasiment plus travailler leurs terres agricoles, et leurs maisons dans la campagne étaient dévalisées et volées par les Béotiens, avec tout le bétail et les bêtes de somme qui n'avaient pas pu être transférées en Eubée pour y être mis à l'abri. Ils devaient importer ce dont ils avaient besoin par un itinéraire plus long, ce qui en augmentait le coût, et ils devaient financer une force armée pour garder les murs nuit et jour. Privés de leurs moyens de subsistance, de plus en plus de citoyens étaient obligés de se rassembler dans l'enceinte de la ville. La demande accrue et les coûts d'importation plus élevés des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité ne pouvaient manquer de faire monter les prix. Cela pesait d'un poids supplémentaire sur le trésor public, car l'État devait, d'une manière ou d'une autre, subvenir aux besoins des veuves et des orphelins nécessiteux, créés par la guerre.